Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à votre journal de midi, heure de Kinshasa. À la une, ce nouveau rapport du groupe des experts de l'ONU transmis au Conseil de sécurité. Ce document relève notamment que la FCM-23 et l'armée rwandaise continuent de se renforcer dans les parties occupées, tant sur le plan militaire qu'administratif, cela avec l'intention, selon les experts, de créer une république fédérale. Clôture de l'année scolaire 2025-2026, aujourd'hui 2 juillet, selon le calendrier officiel. Nous serons pour cela à Kindu, Ituri, Lubero et Kananga. Voir comment les choses se passent en cette journée habituellement consacrée à la proclamation des résultats scolaires. Notre invité est Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja, qui encadre des jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Il explique comment se fait la réunification des jeunes dans leur famille après leur encadrement au centre. Madame, Monsieur, bonjour. L'AFC M23 ne se limite plus à une rébellion armée. Et c'est l'un des principaux constats du nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC transmis au président du Conseil de sécurité. Le document décrit un mouvement qui renforce son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans les territoires qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une république fédérale du Congo. Le rapport évoque également des liens grandissants entre l'AFC M23 et l'ancien président Joseph Kabila. Des précisions à ce sujet avec Martial Papimoukeba.
Les groupes d'experts de l'ONU estiment que l'AFC M23 compte aujourd'hui environ 30 000 combattants. Selon les rapports, ces effectifs regroupent les noyaux historiques du mouvement, des recrues mobilisés depuis 2021, ainsi que d'anciens militaires des FRDC, policiers et combattants Wazalendo, ralliés après l'occupation de la ville de Goma. Les experts affirment également que la rébellion continue de bénéficier de l'appui de l'armée rwandaise. Ils évaluent entre 14 000 et 18 000 le nombre des soldats rwandais déployés au nord et au sud Kivu à la fin de 2025, sans retrait significatif depuis, mais avec des rotations et des renforts. Les rapports soulignent aussi que l'AFC M23 a mis en place une administration parallèle dans les territoires sous son contrôle. Le mouvement a centralisé la perception des recettes, pris le contrôle de la SNEL et de la régie des eaux, remplacé la SONANS par une société privée d'assurance et organisé les territoires occupés en 3 zones de défense. Sur le plan politique, les experts de l'ONU affirment que l'objectif du mouvement reste le renversement du gouvernement congolais ou, à défaut, la création d'une entité autonome baptisée République fédérale du Congo. Les rapports indiquent également que l'AFC M23 chercherait également une reconnaissance officielle à travers les négociations et ambitionnerait de constituer la future armée de cette entité plutôt que d'intégrer ses combattants dans les FRDC. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Nous sommes 2 juillet, c'est la fin de l'année scolaire 2025-2026 et la proclamation des résultats des élèves dans les écoles de la RDC selon le calendrier publié par le ministère de l'Éducation nationale. À Kindu, comme dans d'autres localités du Maniema, plusieurs établissements scolaires ont respecté ce rendez-vous malgré les défis liés aux crises sécuritaires et sanitaires qui ont émaillé cette période. Parents, élèves et éducateurs se réjouissent de l'aboutissement heureux de l'année scolaire. Dans plusieurs écoles, c'est la joie et donc une ambiance festive pour ceux qui ont obtenu des bonnes notes. Florence Kizalunga est sur place à Kindu.
Nous sommes sur le boulevard Joseph Kabila à Kindu. Plusieurs familles célèbrent la réussite de leurs enfants par des cris, des sifflets, de musique accompagnée des danses de tout genre sur la voie publique, contrairement à la décision du maire interdisant toute réjouissance sur la place publique. Certains élèves rencontrés n'ont pas caché leur joie.
J'aime ça et reste car je passe en 6e année.
Moi je reçois avec 62%, je passe en 2e année. Et moi je passe en 4e année, je suis dans la joie.
Les parents qui les ont accompagnés ne sont pas restés indifférents.
Avec la conjoncture économique actuelle, madame, voir nos enfants terminer l'année en bonté comme ça, nous sommes reconnaissants à notre Dieu.
Les enseignants remercient les parents pour leur accompagnement.
Nous remercions les parents pour la confiance et leur accompagnement. Rendez-vous encore au mois de septembre.
À côté des écoles, des places sont aménagées pour la prise des photos souvenirs. Chacun se bouscule. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Merci Florence. Dans Nitori, la proclamation des résultats de fin d'année scolaire se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Pour éviter les rassemblements en sol, les parents sont autorisés à retirer les bulletins de leurs enfants. C'est pour limiter les risques de propagation du virus. C'est une décision de la Direction provinciale de l'éducation Ituri qui supervise notamment les écoles de territoire de Djougou et d'Irumu qui sont parmi les zones les plus touchées par Ebola. C'est un reportage d'Isaac Rémo.
Habituellement, la proclamation des résultats rassemble des centaines d'élèves et des parents dans les écoles. Cette année, ces rassemblements sont interdits afin de prévenir la propagation d'Ebola. Les chefs d'établissement ont reçu l'instruction de remettre les bulletins uniquement aux parents dans le respect des mesures sanitaires. Yvon Mouquet, directeur provincial de l'éducation Ituri 1.
Sous épidémie. Alors, il faut prendre des mesures comme ça pour, n'est-ce pas, que l'on puisse prévenir la contamination des enfants.
Les parents saluent cette mesure qu'ils jugent indispensable pour protéger les élèves, notamment à Bounia, l'un des principaux foyers de l'épidémie.
Et c'est une bonne chose pour nous d'abord et ainsi que pour nos enfants. Parce que nous connaissons une période très difficile dans notre province de l'Ituri qui est touchée par l'épidémie à virus Ebola.
Dans les écoles, les parents sont accueillis à tour de rôle après lavage des mains et contrôle de la température avant de retirer les bulletins dans les salles de classe de chaque élève, où on a préfet du complexe scolaire Shalom.
On constaterait qu'il n'y a aucun élève ici. Nous avons donné l'instruction aussi à nos agents de sécurité d'empêcher ce que les élèves qui pourront tenter venir d'accéder à la concession.
Si cette mesure est largement comprise, de nombreux élèves regrettent de ne pas pouvoir célébrer leur récit avec leurs camarades avant les vacances. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et en cette fin d'année scolaire, l'heure est habituellement aussi au bilan dans le secteur de Bapéré, territoire de Lubero, Nord Kivu. Ce bilan, justement, est loin d'être reluisant. Les attaques répétées des ADF ont entraîné la fermeture de plusieurs écoles, l'interruption des cours, des déplacements de population et la délocalisation de certains établissements. Conséquence, certaines écoles poursuivent encore des enseignements pour rattraper les mois perdus. La société civile appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour garantir une rentrée scolaire normale en septembre prochain. Samuel Kaini, président de la société civile du secteur de Bapéré, explique la situation. Il est au téléphone de Martial Papimoukeba.
L'année scolaire a connu plusieurs défis liés à la situation sécuritaire qui n'ont pas permis une bonne évolution et encadrement des apprenants. Il y a eu des interruptions des activités scolaires d'une manière momentanée dans certaines agglomérations. Ouverture tardive des activités scolaires comme au chef-lieu du secteur de Bapéré. Il y a aussi des zones qui n'ont pas ouvert, bien sûr, les portes de l'école suite à cette insécurité qui a prévalu dans l'axe Butembo-Ngrégipal. Il y a aussi des localisations de certaines écoles. Au chef-lieu du secteur de Bapéré, il y a des écoles qui n'ont pas encore fermé leurs portes. Vous savez, il y a seulement 2 mois depuis que les cours ont repris. C'est pourquoi nous sommes en train de demander. La Saint-Vibra appelle à un engagement pour que l'année qui va commencer, les écoles qui ont fermé puissent ouvrir leurs portes.
Jusque-là, nous n'avons pas obtenu la réaction des autorités scolaires du territoire de Lubero à ce sujet. Bouclons cette page sur la clôture de l'année scolaire à Kananga, dans la province du Kasaï central. Ici, la publication des résultats scolaires laisse un sentiment d'inachevé. Dans plusieurs établissements, les élèves quittent l'école sans leur bulletin officiel. À la base, certains reçoivent un bulletin à la place, certains reçoivent un bulletin provisoire ou un simple document reprenant leurs résultats. Les responsables des écoles expliquent ne pas avoir reçu de bulletin de l'inspection provinciale de l'éducation nationale, une situation qui alimente le mécontentement des parents alors qu'ils s'acquittent chaque année des frais destinés à l'obtention de ce document. Nous faisons le point avec André Katendengalamouloumé.
Les écoles de Kananga ont procédé ce jeudi à la proclamation des résultats conformément au calendrier scolaire. Mais un problème revient dans plusieurs établissements. Les bulletins officiels sont introuvables. À la place, des élèves repartent avec un bulletin brillant ou un simple papier indiquant leur cote.
Oui, je suis déjà proclamé. On n'a pas remis un bulletin, on n'a remis qu'un bout de papier avec le pourcentage. On est obligé de revenir après quelques jours pour reprendre le bulletin.
On nous a proclamé, mais on ne nous a pas donné les bulletins. On nous a donné la photocopie du bulletin.
Les parents dénoncent cette situation. Louis Mputu, parent d'élèves rencontré au centre-ville de Kananga, affirme payer les frais des bulletins depuis 2 à 3 ans sans jamais voir les des bulletins officiels remis à ses enfants. Nous avons tenté de joindre l'inspecteur principal provincial de l'éducation sans succès. Selon des sources au sein de l'inspection provinciale, les bulletins sont toujours attendus de Kinshasa. En attendant, des milliers d'élèves terminent l'année scolaire sans leur bulletin officiel. Une situation qui affecte le plus ceux qui vont étudier ailleurs dans d'autres villes ou pays. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Et parlons infrastructure à Matadi, au Congo central. L'avenue Mission, située dans la commune de Nzanza, fait actuellement l'objet des travaux de réhabilitation sur une distance d'environ 900 mètres. Cet axe routier stratégique relie l'entrée du camp Banana au marché Pompage et constitue une voie importante pour la mobilité des habitants. Les travaux seront exécutés par l'Office de Voirie et Drainage OVD et grâce au financement du Fonds national d'entretien routier FONER. Et la durée d'exécution est d'environ 6 mois, hors contraintes liées aux intempéries. À terme, cette réhabilitation devrait améliorer significativement les conditions de circulation, renforcer la sécurité des usagers et faciliter des échanges entre les différents quartiers desservis par cette avenue. C'est la joie sur place, nous dit Élise Kavira.
La joie est grande chez les habitants d'Nzanza. Chaque jour, les automobilistes, motards, commerçants et riverains avaient beaucoup de difficultés pour circuler à cause du mauvais état de la route. Pour Michunzita, une usagère régulière, la réhabilitation de cette avenue vient mettre fin à un long calvaire.
Cette route nous a vraiment fait souffrir. On se demandait si les autorités voyaient comment elle s'est dégradée chaque jour. Surtout, nous, les mères des familles, aller au marché tous les jours, ça devient compliqué, même pour aller à l'école. Beaucoup d'enfants se sont blessés ici à cause de trous qui sont créés, surtout quand il pleut. Vraiment, nous disons un grand merci.
Pour sa part, le directeur provincial de l'OVD, Michel Kayembe, rassure la population que les délais seront respectés et qu'elle aura une avenue neuve d'ici la fin de l'année.
Vous savez, c'est la saison sèche. Nous allons mettre toutes les batteries pour aller rapidement. Et surtout que nous avons aussi une érosion. Mais nous rassurons à la population matadienne, à tous les amis de Nzanza, que d'ici novembre, décembre ou plus tard, la route sera praticable.
Le directeur Michel Kayembe invite la population de Nzanza à s'approprier ce projet dont elle est la principale bénéficiaire en respectant les consignes afin d'atteindre les résultats attendus. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Et en parlant de l'appropriation des projets par la population à Bounia, à 2 jours à peine après leur installation par la mairie, plusieurs poubelles publiques ont été volées et d'autres endommagées par des personnes non autrement identifiées. Lundi, le maire de la ville a dit regretter que des personnes mal intentionnées cherchent à décourager cette initiative. Un projet qui pourtant, précise-t-il, vise à améliorer la gestion des déchets et à prévenir les risques sanitaires, notamment dans le contexte actuel marqué par l'épidémie d'Ebola. Marcia Kizabiamungu a fait la ronde de la ville, son reportage.
Au total, 20 poubelles publiques de moitié des filles de 200 litres peintes tablées ont été installées sur les différentes artères du centre-ville de Bounia. Selon le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Bosco Mouikola, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement de Bounia lancé il y a un peu plus de 2 ans dans le but d'améliorer la salubrité urbaine. Seulement, quelques jours après leur installation, le maire Kola déplore le vol de certaines poubelles par des insectes.
Je voudrais rendre la vie propre et puis les chèques aussi, ils ont volé ça.
L'installation des poubelles publiques a été saluée par les habitants de Bounia, habitués à se débarrasser de leurs déchets sur la chaussée ou les rigoles, faute d'endroits indiqués où les jeter. C'est le cas de ce jeune conducteur de triporteur retrouvé sur les boulevards de la Libération vers le marché central de Bounia, où des poubelles publiques ont été installées samedi dernier.
Nous disons merci au maire de la ville, mais nous lui demandons de nous ajouter des poubelles.
Le maire Bosco Kola indique également avoir disponibilisé un véhicule pour l'évacuation régulière du déchet vers une décharge publique déjà aménagée. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous sommes au Nord Kivu. Des centaines d'hommes, des femmes et d'enfants portent encore des séquelles de bombardements et des explosions qui ont frappé Goma en janvier 2025. Et grâce au programme du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, destiné aux victimes de guerre, beaucoup ont pu bénéficier des prothèses. Ils poursuivent aujourd'hui leur rééducation au Centre pour handicapés Chéri Kala Umoja. Parmi eux figure Sylvie Nema Balungwe, mère de 6 enfants et désormais veuve. Elle a perdu son mari lorsqu'une bombe a frappé leur maison à la fin du mois de janvier 2025. Ozalie Zawadi l'a rencontrée au Centre de rééducation et retrace son parcours dans ce reportage.
Sur son visage se dessine un léger sourire alors qu'elle s'exerce pour la deuxième fois à s'élever sur ses nouvelles prothèses. Même si l'on devine encore la douleur au fond de ses yeux, cette aide du CICR rallume en elle une lueur d'espoir.
Avec ces prothèses, j'ai l'espoir que je vais pouvoir y marcher, reprendre ma vie d'avant et chercher à répondre aux besoins de mes enfants, car dans cette condition, je ne peux pas le faire.
C'est cet espoir de remarcher qui l'aide à tenir chaque jour. Pourtant, rien ne pourra lui faire oublier la laideur de la guerre.
Normalement, la guerre, elle n'est pas bonne du tout. Si aujourd'hui je n'ai plus mes deux jambes, je ne suis pas née comme ça. Je suis veuve. C'est à cause de la guerre. Ce que nous demandons, c'est la paix. Que la guerre prenne fin.
Aujourd'hui, Sylvie Nehema demande à tous ceux qui font la guerre de trouver d'autres moyens de régler leurs conflits. Car elle le sait, même lorsque la paix reviendra, la photo de sa famille, elle, ne pourra plus jamais être reconstituée. Sur ses clichés précieux, elle tenait encore sur ses deux jambes et son mari était là à ses côtés, entouré de leurs 6 enfants. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Plus de 550 Nigérians ont été évacués depuis l'Afrique du Sud ces 3 dernières semaines pour échapper aux violences xénophobes. Le dernier vol de rapatriement a eu lieu mardi 30 juin, le jour de l'expiration d'une date limite fixée par des manifestants anti-immigration pour que ces étrangers quittent le territoire sud-africain. Le Nigeria envisage désormais de réclamer des réparations à l'Afrique du Sud.
L'invité.
Il s'agit aujourd'hui de Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja, qui encadre des jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Il explique comment se fait la réunification des jeunes dans leur famille après leur encadrement au centre. En outre, il revient sur l'intégration professionnelle de ces jeunes qui obtiennent du travail dans certaines entreprises après leur formation professionnelle. Kamel Kajila s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Kamel, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'assistant social, qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain?
En tant qu'assistant social, ce que nous faisons la réunification des familles. Nous travaillons avec des jeunes qui ont connu des petits soucis en famille, c'est-à-dire ils se sont séparés avec la famille pour plusieurs raisons. Alors notre travail, c'est d'essayer de gérer les conflits qui existent entre l'enfant et la famille pour permettre à ce que l'enfant, avant qu'il termine chez nous sa formation, qu'il soit accepté et qu'il rentre en famille. Parce qu'on estime le lieu où l'enfant peut mieux vivre, c'est en famille.
Parvenir à réunifier un enfant avec sa famille, est-ce que cela est facile?
Facile, je ne dirais pas que c'est facile, mais des méthodes, par le courage, et par cette capacité d'aller vers la famille, de comprendre leurs soucis et de travailler avec l'enfant, on arrive quand même à réunifier l'enfant et la famille. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tous les enfants qui rentrent en famille. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile de se fermer. Soit c'est l'enfant qui ne veut pas, ou soit c'est la famille qui ne veut pas. Alors c'est le genre de cas aussi, on encourage les jeunes à s'installer et surtout quand ils arrivent à trouver un travail, ça devient facile, comme ça ils peuvent s'installer et ils peuvent continuer sa vie.
Quelles sont les réactions souvent des parents lorsque vous les rencontrez pour chercher à réintégrer leurs enfants?
Généralement, la première réaction, elle a toujours été les refus. Beaucoup de parents refusent pour la première fois quand vous arrivez, mais quand vous les expliquez ce que vous faites, ce que vous êtes en train de poursuivre et l'objectif, petit à petit, il y a des parents qui réagissent positivement. Et donc, c'est comme ça que notre travail demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et petit à petit, il y en a qui arrivent à répondre positivement à notre besoin. Et surtout, ce qui nous facilite, c'est que nous travaillons avec des garçons qui ont déjà 15 ans au-delà. Et quand les parents comprennent par rapport à la formation qu'ils suivent ici les garçons, qu'ils comprennent que les garçons ne sera pas vraiment une charge comme telle, mais ça peut être aussi une source pour les parents de revenir et facilement on les accepte.
Combien d'enfants avez-vous déjà réussi à réinsérer dans leur famille?
En tout cas, cette question, je ne réponds pas avec exactitude, parce que ça fait quand même autant d'années, mais j'estimerais au-delà de 100. En tout cas, c'est plus. On a travaillé avec des garçons et des jeunes, mais peut-être par année, on peut répondre. Mais on a déjà réussi à réunifier beaucoup de familles.
Et qu'est-ce qui fait que ces enfants se retrouvent sur la rue? Quelles sont souvent les raisons?
En tout cas, la première raison, c'est la pauvreté. Mais il y en a aussi qui parlent de la sorcellerie. Il y a aussi la séparation des parents, la mort, le divorce. C'est parmi les causes qui poussent vraiment beaucoup de jeunes garçons à se retrouver sur la rue.
Comment se fait l'insertion professionnelle des enfants qui ont terminé leur formation ici chez vous?
Oui, l'insertion professionnelle, au fait, nous proposons des visites dans les entreprises et des stages pour les jeunes qui sont en année terminale. Ce qui fait que, par exemple, cette année, on a eu à envoyer les jeunes pendant 3 mois dans les entreprises et c'est les 15 derniers qui ont terminé leur stage parce qu'ils se préparent déjà au jury. Au travers les stages comme ça et les visites, nous prenons contact avec les entreprises. Et probablement, les jeunes qui sont distingués pendant les stages, ils sont rappelés après, retenus comme travailleurs. Et généralement, ça va. Il y a beaucoup de jeunes qu'on retient comme ça dans les entreprises.
C'est quel sort de travail, par exemple?
Nous avons les soudeurs, il y a des constructeurs, il y a aussi des couturiers ou couturières. Cette année, on a travaillé avec les soudeurs, les constructeurs et les couturiers. Donc, ça fait les 3 métiers qu'on a présentés cette année. L'agriculture aussi, oui. Il y a des jeunes qu'on a amenés dans la ferme, donc il y a les agronomes aussi. Et donc, après leur stage comme ça, il y a des entreprises qui sollicitent certains jeunes qui sont distingués et nous leur demandons juste de nous permettre à ce que les jeunes terminent les jurys et puis après ils vont partir travailler, continuer leur vie.
Et pour ceux ou celles qui apprennent à conduire par exemple une moto, comment est-ce que ces jeunes sont insérés professionnellement? Est-ce qu'ils trouvent facilement du travail?
Oui, ceux qui apprennent à conduire les motos, on les met en contact avec l'entreprise qui vend et qui entretient les motos. Donc là, ils ont des possibilités. Soit ils peuvent prendre la décision de continuer à rouler, devient motard et puis on le paye. Et avec cette possibilité, soit d'être retenu dans cette entreprise, comme ça il devient aussi travailleur. Donc on a des contacts comme ça avec des entreprises selon les domaines pour la réinsertion professionnelle des jeunes.
Monsieur Kamel, je vous remercie.
À moi aussi de vous remercier pour votre visite.
Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja de Lubumbashi, interrogé par Paulin Munanga. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jean Gandou et Richard Junior Kamunga avec Dieudonné Yangasa à la technique et Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci de nous avoir consacré votre attention et votre temps. Bon après-midi.